Bonjour à vous tous à travers le monde. Bienvenue à tous à la Fête des Tabernacles 2014. Et bienvenue aux centaines de nouveaux frères et sœurs qui sont avec nous. Plusieurs nouvelles personnes sont avec nous qui ne connaissaient pas la vérité avant de prendre contact avec l'Église. Et bien sûr, il y a de nombreuses personnes aussi qui sont venues de d'autres groupes, de d'autres églises de Dieu à travers le monde. Ils ont prouvé pour eux-mêmes où l'œuvre de Dieu s'accomplit. Alors, bienvenue à vous. Nous sommes contents que vous soyez avec nous pour nous préparer au retour de Christ, pour célébrer cette fête ensemble. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Nous allons approfondir au cours de cette fête le sens de cette fête. Nous sommes ici pour représenter le retour prochain du Christ sur la terre, son règne millénaire prochain, le temps de la grande moisson des âmes, quand Dieu va intervenir directement pour sauver l'humanité. Ce n'est pas le cas pour l'instant. La Pentecôte concerne les premiers fruits, les prémices. Nous sommes les prémices, nous sommes tout petits maintenant, mais à la venue du Christ, Dieu va ouvrir l'esprit de tous les gens et va sauver des millions et des millions d'êtres humains. Par après, des milliards d'êtres humains lors du jugement du grand trône blanc, lorsque ces gens seront ramenés à la vie, ce qui est représenté par le huitième jour, le grand jour de la fête. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour son plan. Nous sommes heureux de connaître ces choses. Les pieds du Christ seront bientôt sur cette terre. Frères et sœurs, je suis dans l'Église depuis maintenant plus de 62 ans, depuis que j'ai gradué en 1952, en juin, à l'ambassadeur collège, et j'ai vu beaucoup de choses arriver dans le monde. Et les choses s'accélèrent actuellement de plus en plus. Il y a de la guerre, des violences, des choses terribles qui se produisent de plus qu'auparavant, à ce moment-ci. Et ça va augmenter. En ce moment même, la Russie s'implique de plus en plus en Ukraine. Elle s'est déjà emparée de la Crimée. Et la Russie prend de l'expansion. Poutine veut rebâtir l'ancien empire russe. Des centaines de millions de gens vont être bouleversés par ce qui se passe dans cette partie du monde. Il y a un terrorisme extrême qui se déroule en Irak en ce moment. Le groupe de l'État islamique étend sa main mise de plus en plus et crée beaucoup de problèmes. Il y a des douzaines d'êtres humains actuellement qui sont crucifiés. On voit leur corps crucifié sur des poteaux alors que ce groupe violent s'en va vers le sud. Ce ne sont pas tous les médias qui le montrent, mais c'est la réalité. Ça se produit en ce moment. Les gens sont torturés, violés, mutilés, crucifiés. Des choses terribles. Et le Dieu Tout-Puissant va mettre un terme à ça. Au Nigeria, le groupe Boko Haram qui a pillé beaucoup de villages, ils ont enlevé des centaines de femmes et de jeunes filles. Ils font souffrir affreusement les gens dans cette région du monde. Au Kenya, une filière d'Al-Qaïda est actuellement responsable de beaucoup de sang versé dans plusieurs villes. Ils font exploser les gens. Au Pakistan, plus de 70 000 personnes sont maintenant réfugiées sans abri sous l'action des troupes gouvernementales aux prises avec des militants. Il y a un citoyen canadien qui s'est fait exploser en Irak et qui a tué 19 personnes. La Chine veut mettre la main sur une petite île du sud de la mer de Chine, ce qui crée beaucoup de tensions entre la Chine, le Japon et d'autres nations de la région. Ça se développe. Il y aura peut-être une guerre là avant longtemps. Les États-Unis ont donné leur support au Japon et aux Philippines. Il y a aussi la Syrie, le Yémen, l'Égypte, la Turquie, la Corée du Nord et d'autres nations où il y a beaucoup de combats, de grandes troupes, plusieurs horreurs. Actuellement, il y a 61 pays dans le monde où il y a de la violence, de la guerre, de la torture, des viols, des suicides, parce que les gens se découragent. Certains meurent de faim. Ce monde se désintègre, se détruit plus que jamais auparavant. C'était prophétisé. Ça se produit sous nos yeux. Des nations s'élèvent contre des nations, des groupes ethniques contre des groupes ethniques, comme c'est marqué dans la Bible. Des groupes religieux s'entretuent aussi tout autour de la planète. Le Christ revient bientôt. Et il nous faut nous préparer pour être ces rois et ces sacrificateurs dont il parle dans sa parole. Il faut nous préparer. Le monde a besoin de nous. Il a besoin désespérément du royaume de Dieu. Nous allons commencer avant longtemps dans notre pays à expérimenter des choses terribles, des sécheresses terribles, des famines terribles, des épidémies. Ça n'a pas commencé beaucoup, juste un petit peu, mais ça va se développer énormément avant la fin. Vous allez expérimenter ça, là où que vous soyez. Allons à Apocalypse chapitre 2. Le Christ dit, verset 26, « À celui qui vaincra, et j'espère que c'est chacun de nous, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les paîtra avec une verge de fer. » Ce sera notre rôle, nous le ferons sous le Christ. Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même. C'est le Christ qui parle, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Il faut nous préparer à être ces enseignants et ces rois dans le monde à venir. Nous apprenons des leçons, nous travaillons ensemble, nous développons le leadership et le travail d'équipe pour être ces rois et ces enseignants sous le Christ qui allons administrer la terre, qui allons aider ce monde confus et souffrant. Allons à Apocalypse chapitre 5 maintenant. Au verset 8, ça parle comment les prières des saints montent jusqu'au trône de Dieu. Et au verset 9, il est écrit, « Ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, il parle du Christ, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux, c'est-à-dire de nous, un royaume. » C'est dans le plan de Dieu. Il faut vraiment vouloir accomplir le plan de Dieu. C'est déjà planifié. Dieu a en réserve un travail pour vous. Tu as fait d'eux, c'est comme si c'était fait, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. C'est de nous dont il est question ici, non pas au ciel. Nous allons régner sur cette terre pendant 1000 ans. On peut dire 1100 ans si on inclut la période du jugement du grand trône blanc. Et nous allons diriger et régner sous le Christ. Que Dieu accélère ce jour. C'est urgent. Les choses avancent plus que jamais. Il nous faut nous développer, nous entraîner à faire notre part. Il faut devenir ces rois et ces sacrificateurs. Nous devons avertir nos peuples. Nos gens ne le comprennent pas. Les gens à l'extérieur du studio ici ne réalisent pas du tout là où nous sommes rendus et ce qui s'en vient. Ils ne portent pas attention. Ils ne savent pas. Dieu nous a amenés ensemble pour annoncer ce message et il nous faut le répandre beaucoup plus que nous le faisons maintenant. 20 fois, 50 fois plus que nous le faisons maintenant pour que les gens connaissent le but de l'existence humaine et qu'au moins ils soient avertis de ce qui s'en vient très bientôt parce que c'est la plus grande détresse de toute l'histoire de l'humanité qui s'en vient. Il faut qu'ils le sachent, il faut qu'ils comprennent. Allons à Ézéchiel chapitre 33, s'il vous plaît. Ézéchiel chapitre 33. Plusieurs d'entre vous, frères plus anciens dans l'Église, vous le savez, mais vous devez l'approfondir et vraiment le comprendre. Ézéchiel chapitre 33. Dieu nous dit ici à partir du verset 1, ça décrit la responsabilité de l'Église aujourd'hui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme, ça décrit en même temps la grande détresse qui s'en vient, prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Plusieurs d'entre vous avaient fait de moi une sentinelle en me supportant par vos prières et votre support de toute façon, votre exemple, vos dîmes, vos offrandes, vos prières, et vous mettez tout votre cœur dans l'œuvre. Vous l'avez fait sous M. Armstrong, plusieurs d'entre vous, et vous le faites maintenant, et vous soutenez l'œuvre de Dieu. Nous avons une équipe formidable. Il y a M. Richard Ames, nous avons Dr. Winnale, M. Gerald Weston au Canada, et d'autres leaders à travers le monde. Nous formons une très belle équipe pour accomplir l'œuvre de Dieu et répandre ce message à travers le monde. Nous formons une équipe. Anciennement, dans l'Ancien Testament, Dieu agissait souvent par un prophète, mais maintenant, il agit à travers son Église, le corps du Christ. Nous avons la responsabilité de faire ce travail-là. Et nous faisons tous partie de cette équipe dont parle Ézéchiel. Verset 3, « Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, ça c'est notre travail, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. Nous espérons que plusieurs milliers vont comprendre et vont se repentir. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Tous ensemble, nous avons cette responsabilité. Si la sentinelle voit venir l'épée, on la voit venir l'épée. Il faut avertir les gens et ne sonne pas de la trompette. Si nous ne faisons pas l'œuvre avec zèle, si nous ne supplions pas Dieu par nos prières et si nous ne supportons pas l'œuvre par nos exemples, par nos dîmes et tout ça, voyez-vous, nous sommes responsables. Nous avons cette responsabilité. J'aimerais mieux mourir en servant l'œuvre qu'autrement. M. Armstrong avait l'habitude de dire qu'il voulait mourir d'épuisement plutôt que de rouille. Il faut avertir. Nous avons le rôle de cette sentinelle. Si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un sa vie, celui-là périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Il nous faut sonner la trompette. Il nous faut avertir les gens. Voyez-vous, Dieu dit qu'il va réclamer à la sentinelle le sang de la personne qui ne sera pas avertie si nous n'avons pas fait cette responsabilité d'avertir. En le faisant, nous allons accumuler un trésor dans le ciel. Nous allons devenir membres de la famille de Dieu à jamais. Verset 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Pour toute la maison d'Israël, les 12 tribus, y compris les Juifs au Moyen-Orient, et il nous faut les rejoindre plus puissamment que nous le faisons. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Il nous faut avertir les gens au nom du Dieu vivant. Ces choses s'en viennent, il faut leur dire. Il faut qu'ils se réveillent alors qu'ils en ont encore l'occasion. C'est un gros travail que nous avons à faire. Annoncer aussi le message du gouvernement de Dieu qui s'en vient sur la terre, le retour de Christ en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, et donner le message de Jésus-Christ qui est notre sauveur. Il est la voie qui mène à ce royaume-là. Il faut donner notre vie à Dieu et soumettre notre vie au Christ entièrement. Le Christ réel qui va vivre sa vie en nous par son Saint-Esprit. Il nous sauve en vivant sa vie en nous. Il nous faut le comprendre, frères et sœurs, et faire notre part pour nous soumettre à Dieu, pour le servir, pour l'adorer et pour marcher avec Christ, de sorte qu'il vive sa vie en nous. Au cours de cette fête, pensons à ces choses-là plus profondément qu'auparavant. Encourageons-nous les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Prions pour que Dieu répande son esprit d'une façon spéciale sur nous tous au cours de la fête. Adorons notre Créateur en ces jours spéciaux. Allons à Ézéchiel maintenant, chapitre 22. Nous sommes impliqués dans quelque chose de vraiment spécial. Je veux que vous le compreniez tous, que nous comprenions nos responsabilités en tout ça. Il parle ici de la maison d'Israël. On le voit dans les versets précédents. Lisez le livre d'Ézéchiel avec soin. Examinez les commentaires. Ce livre d'Ézéchiel a été écrit entre 593 et 585 avant Jésus-Christ. Ce livre a été écrit environ 100 ans après qu'Israël a été amené en captivité. Alors, lorsqu'il parle de la maison d'Israël, il parle donc d'une captivité nouvelle qui va venir. Parce que Israël était déjà en captivité à ce moment-là. Alors, voyez-vous, il y a plusieurs passages de la Bible qui parlent de la maison d'Israël. Pas seulement les Juifs, mais la maison entière d'Israël. Lisez-le avec soin, vous allez comprendre. Vous lirez le chapitre 4 d'Ézéchiel et vous allez voir comment ce symbole est interprété. Jérusalem représente toute la maison d'Israël, les 12 tribus. Et ce message-là est d'abord pour toute la maison d'Israël. Verset 10. « Au milieu de toi, maison d'Israël, c'est nous aujourd'hui, les Américains, les Australiens, les Anglais, au milieu de toi, on découvre la nudité du Père. » Oui, Les gens violent leur mère et leur sœur. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impureté. Au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain, de l'adultère partout. Chacun se souille par l'inceste avec sa belle-fille. Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Et ça va même plus loin que ça. Nous allons dans une perversion terrible. Des hommes qui marient des hommes et des femmes qui marient des femmes. Des choses qui ne doivent jamais exister. Quelque chose qui sera complètement éradiqué lorsque le Christ reviendra en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Ça n'existera plus. Ce sera éliminé. Dieu Tout-Puissant déteste ces comportements. C'est une abomination. Chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang. Tu exiges un intérêt et une usure. Tu dépouilles ton prochain par la violence. Et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur l'Éternel. Oui, les gens profitent des autres. Les banquiers, les leaders financiers manipulent les gens, en tirent avantage des gens. Plus que jamais, il y a d'énormes différences de revenus entre les riches et les pauvres. Les gens deviennent des adorateurs de l'argent, sont égoïstes, aiment le pouvoir. Verset 15, regardez ce qui est dit. « Je te disperserai parmi les nations, je te disséminerai en divers pays et je ferai disparaître ton impureté du milieu de toi. Tu seras souillé par toi-même aux yeux des nations et tu sauras que je suis l'Éternel. » Lorsque nos nations seront en captivité, les gens vont finalement se réveiller. Verset 18, « Fils de l'homme, la maison d'Israël. » Voyez-vous, la maison d'Israël. Pas seulement les Juifs, toute la maison d'Israël, les 12 tribus. La maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories. Ils sont tous de l'airain, de l'étain, du fer, du plomb dans le creuset. Ce sont des scories d'argent. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous êtes devenus tous comme des scories, voici, je vous rassemblerai au milieu de Jérusalem. Nos nations seront jetées dans le feu, dans la grande détresse. Au verset 25, ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Les prophètes, les faux ministres qui tirent avantage des gens avec ces idées modernes libérales. Leurs ministres peuvent devenir des pervers. Leurs ministres peuvent devenir des homosexuels pratiquants qui se marient entre eux. Et des femmes marient des femmes dans le clergé, dans ces congrégations-là, et se disent ministres de Christ. C'est une abomination. C'est absolument épouvantable. C'est une abomination. Il y a une trentaine d'années, les gens n'auraient jamais cru que ça allait arriver. Vous, jeunes gens, vous pensez que 20 ans, c'est une longue période. Mais lorsque vous avez vécu 60 ans ou 80 ans ou 90 ans, on se rend compte que 20 ans, c'est très peu dans l'histoire de l'humanité de 6000 ans. Verset 25, ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les armes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi. Les ministres de ces fausses églises enseignent des voies qui ne sont pas les voies de Dieu, des voies qui sont contre Dieu. Ils profanent mes sanctuaires. Ils ne portent pas attention au sabbat de Dieu. Ils ne portent pas attention aux fêtes de Dieu, à celles que nous observons, par exemple. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Et ils ne comprennent pas. Ils ne portent pas attention à ce que Dieu dit. Ils détournent les yeux de mes sabbats. De mes sabbats, les sabbats hebdomadaires, ils ne les observent pas, ni non plus les sabbats annuels, les jours saints. Et je suis profané au milieu d'eux, au verset 28. Et ces prophètes, les ministres modernes de ces églises, ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel ne leur a point parlé. Ce sont leurs propres idées humaines, leurs idées libérales qu'ils annoncent. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux. Nous sommes remplis de ça, nos nations. Et ces pasteurs-là ne vont pas à l'encontre de ça. Ils suivent ce qui se passe. Tout simplement, ils font la même chose. Opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. les étrangers, les gens d'ethnie différente sont maltraités. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Qui va se tenir à la brèche en Angleterre aujourd'hui? Qui le fait en Australie aujourd'hui? Qui le fait au Canada et dans tous ces pays? Qui avertit les gens? Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Mais je n'en trouve point. Que Dieu nous aide à faire notre part, c'est ce que je demande, pour que nous soyons ces gens-là qui se tiennent à la brèche. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur la tête, dit l'Éternel, le Seigneur. Nous avons été appelés pour nous tenir à la brèche. Une brèche, c'est comme une ouverture sur le flanc d'une armée où l'adversaire ou Satan peut blesser des gens, les séduire, les induire en erreur. Que Dieu nous donne le courage et la foi nécessaires pour dire aux gens, réveillez-vous, Amérique, Canada, Angleterre et ailleurs. Dire aux gens que cette vie a un but, qu'ils connaissent le vrai Dieu et qu'ils fassent dans leur vie ce qu'ils demandent. Les gens deviennent de plus en plus immoraux. Ils commettent l'immoralité. Ils pensent que c'est correct d'avoir du sexe oral et toutes sortes de perversités. Ça va aussi loin que le mariage entre gens du même sexe. Et les ministres disent que c'est correct. Ces gens-là vont devoir se tenir devant une cour beaucoup plus élevée. Ils vont devoir rencontrer et faire face à la cour suprême de l'univers. Et ils seront trouvés coupables. Ils vont devoir apprendre leurs leçons. Il nous faut être ces gens qui avons le courage de se tenir à la brèche pour que les gens sachent qu'il y a quelque chose de terrible qui se prépare et qui vient. Que Dieu commence déjà à intervenir dans les affaires humaines pour que les gens finalement connaissent ce qui est vrai et ce qui est juste. Voilà le sens de notre appel et notre responsabilité. Nous serons récompensés merveilleusement en relation avec ça. Il faut être ces gens qui se tiennent à la brèche. Allons à Apocalypse chapitre 21, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 21. J'ai parlé de ce thème dans mon sermon sur la foi, mais c'est un concept très important. Verset 7, Apocalypse 21. Jésus dit ici, à la toute fin de la Bible, « Celui qui vaincra, celui qui vaincra, que ce soit vous et moi, celui qui vaincra héritera toutes ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, immoraux sexuels, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Dieu est clair ici, absolument. Un châtiment terrible sur ceux qui n'apprendront pas à craindre Dieu. Craignons Dieu, ayons cette admiration du grand Dieu de l'univers, ce grand respect envers lui, c'est lui qui nous donne toutes choses. Et montrons-nous dignes d'être protégés des choses qui viennent et d'entrer dans le royaume de Dieu, celui qui vaincra. Mais pour les lâches, les peureux, ce sont les premiers qu'il mentionne. Vous et moi, nous allons être testés dans les années qui viennent. Des choses terribles vont nous arriver. Vous êtes dans des petits groupes ici et là sur la face de la terre actuellement, 5 personnes, 10 personnes ou 20 ou 40. Nous avons bien sûr plusieurs églises de plus de 100 membres. Certains membres sont même seuls. Vous êtes dans un tout petit groupe ou tout seul. Mais vous savez, tôt ou tard, chacun d'entre nous, nous allons devoir nous tenir debout seuls face à Dieu parce que des ennemis, des gouvernements, des autorités vont venir après nous. Nous allons devoir mettre notre foi et notre confiance en lui. Écoutez, tous les disciples ont abandonné le Christ. À la fin de sa vie, il a dit « Je suis seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Vous allez devoir avoir du courage. Je vais devoir avoir du courage pour rencontrer les menaces, les persécutions, peut-être être battu, de l'emprisonnement, menace de mort, peut-être mourir, il faudra avoir la foi. Développez cette attitude de foi au cours de la fête. Priez les uns pour les autres. Apprenez à vous connaître. Approchez-vous du Dieu qui vous donne la vie et qui vous maintient en vie. Soyons ces gens-là qui vont se tenir à la brèche pour dire « c'est suffisant, il y a un Dieu réel qui existe ». Soyez un exemple, aidez à préparer le retour de Christ. Avertissez vos amis, vos parents, ceux qui sont autour, que le Christ revient, qu'une grande détresse s'en vient bientôt. Pour que plus de gens apprennent à laisser le Christ vivre en eux. Et je veux vous le dire encore une fois, et je veux que les nouvelles personnes l'apprennent. Vous savez, le vrai christianisme, c'est obéir à Christ et c'est laisser le Christ vivre en nous. Le meilleur verset qui définit ce qu'est le vrai christianisme, c'est Galates 2, verset 20. C'est très clair. Ça nous montre que c'est le Christ qui doit vivre en nous. Paul dit, « J'ai été crucifié avec Christ. » Et si je vis, on continue à vivre physiquement, bien sûr, mais le Christ doit vivre en nous par son esprit. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus par ma force, c'est par la force de Christ. Nous vivons cette vie maintenant par la foi du Fils de Dieu qui s'est livré à la mort pour moi, pour chacun d'entre nous. Il nous faut vivre par la foi du Christ en nous. C'est lui qui doit vivre sa vie en nous. Voilà quel est le vrai christianisme. Et au cours de cette fête, il nous faut vraiment le comprendre. Quelle fête le Christ a-t-il célébré quand il était sur la terre? Il a observé le sabbat hebdomadaire. Il a observé les jours saints. Et il a obéi à Dieu en toutes choses. Voilà comment aimer Dieu. Voilà comment aimer notre prochain. Il faut avoir courage. Quand le Christ a vu les persécutions sur les gens autour, qu'est-ce qu'il a dit? On le voit dans Matthieu 23. Il a dit aux chefs religieux de l'époque, « Race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir? » Est-ce que le Christ est méchant? Non, il leur a donné simplement la vérité. Un jour, nous allons devoir parler contre ce monde et contre ces faux ministres et nous tenir à la brèche, avoir le courage pour aider les gens à se réveiller, pour leur dire que nous sommes à la fin d'une époque, que la fin arrive. Il nous faut être les gens qui livrent ce message au monde plus puissamment encore et y consacrer toute notre vie. Prions pour avoir le courage nécessaire et aidons-nous les uns les autres pour croire dans cette compréhension et pour avancer, pour supporter l'œuvre. Durant cette fête, c'est une occasion spéciale. Aux assemblées, amenez votre Bible chaque jour. Prenez des notes. Priez chaque jour Dieu. Adorez votre Dieu. Profitez de l'occasion pour vous approcher de lui de façon spéciale et comprenez davantage son plan pour développer votre foi, pour que vous soyez parmi ceux qui vont se tenir à la brèche. Il nous faut tous croire durant cette fête pour accomplir le but de notre appel, que nous soyons ceux qui vont préparer la voie pour le retour du Christ. Laissons le Christ vivre en nous pour nous préparer à devenir ses rois et ses enseignants qui vont servir sous le Christ pour aider l'humanité. Au cours de cette fête, nous allons avoir l'occasion d'adorer Dieu et de nous représenter le temps où le Christ sera sur la terre. Allons maintenant à Zacharie, le chapitre 14. Zacharie, le chapitre 14, ça décrit ce qui va se passer bientôt. Ce monde tire à sa fin. Il faut le comprendre. Zacharie 14, verset 1. Voici, le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. La ville est déjà divisée entre les Arabes et les Juifs. Le terrain est tout prêt pour ça. Cette division existe au moment où je vous parle. Verset 3, « L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. » Oui, le Christ revient bientôt et il va combattre les nations païennes qui vont l'affronter à ce moment-là. Ses pieds se poseront, verset 4, en ce jour sur la montagne des Oliviers. Le Christ revient bientôt sur cette terre, sur le mont des Oliviers. Vous avez déjà vu, pour certains d'entre vous, le mont des Oliviers. On ne parle pas de quelque chose qui aura lieu sur une autre planète ou ailleurs dans l'univers. Non, on parle de cette terre. Le Christ va revenir ici, à cet endroit précis, que ce soit réel dans notre esprit et dans notre cœur. Au verset 9, un peu plus loin, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Le Christ sera ici sur la terre, d'ici 15 à 25 ans, avant, je l'espère, et son nom sera le seul nom. Dieu sur la terre, personne ne pourra s'opposer à lui. Regardez le verset 16. « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année, et il parle ici de toutes les nations, pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. » Non pas pour observer les Juifs, observer la fête des tabernacles. Il dit, toutes les nations vont s'assembler et monter à Jérusalem pour observer la fête des tabernacles. Frères et sœurs, et vous, nouvelles personnes, sachez tous que nous sommes des pionniers maintenant. Nous sommes des pionniers de quelque chose que tout le monde va célébrer lorsque le Christ sera revenu. Bientôt, tout le monde célébrera les mêmes fêtes que nous célébrerons. Verset 17. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Dieu va attirer leur attention. Il n'argumentera pas avec eux. Il va couper tout l'apport en pluie sur leur pays. Dieu va attirer leur attention pour qu'ils comprennent. Si la famille d'Égypte ne monte pas, pourquoi l'Égypte? Parce que les nations arabes vont rire de ça, vont ridiculiser ça. Ils vont dire, ce sont des fêtes juives. Et vous savez, tous les sentiments antisémites que l'on voit sur la terre et autour de Jérusalem, ce sera chose du passé. Nous sommes tous des Israélites spirituels. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations. Voyez-vous, la deuxième année, non seulement ils n'auront pas de pluie, mais il y aura une autre plaie qui va s'ajouter. Les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête à Jérusalem. Chaque nation devra célébrer la fête des tabernacles. 19, ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Wow! Nous sommes les précurseurs d'une nouvelle civilisation. Nous sommes des pionniers d'une nouvelle civilisation. Réjouissons-nous-en. Dieu nous appelle à le connaître et il nous donne cette occasion de vivre la fête des tabernacles qui représente le merveilleux monde à venir, de nous en réjouir, de goûter des choses spéciales durant cette fête, des belles danses, des belles célébrations, comme tout le monde va avoir l'occasion de vivre après le retour du Christ. Imaginez-vous toutes les nations qui auront des représentants montant à Jérusalem au temps de la fête des tabernacles. Il y aura des grandes processions, les gens vont danser, chanter, il y aura des chorales, il y aura de magnifiques orchestres, avec de la belle musique. Il y aura des belles lumières colorées. Dieu n'est pas contre les lumières colorées. Des belles joies, des belles décorations, des danses, etc. Ce sera ça, la fête des tabernacles dans le monde à venir. De la beauté tout autour. Et les gens vont apprendre à adorer Dieu. Ils seront en présence du roi des rois et du seigneur des seigneurs, le vrai Jésus-Christ de la Bible. Il sera sur cette terre et il dirigera les gens. Que Dieu accélère la venue de ce jour. Vous savez, ça vient plus vite que la plupart des gens peuvent imaginer. Nous avons la chance d'être des pionniers de cette nouvelle civilisation. Il faut faire notre part maintenant pour nous préparer à être ses rois et ses enseignants dans le monde. Apprenons les voies de Dieu, apprenons les lois de Dieu, étudions ces choses-là, méditons-les, appliquons-les et préparons-nous à être ces gens qui vont servir dans le monde à venir sous le Christ, parce qu'il veut faire de nous des rois et des enseignants. Allons à Philippiens, dans le Nouveau Testament, au chapitre 3. Philippiens, chapitre 3. Nous allons voir quelque chose qui s'applique tout au long de l'année, mais qui s'applique, bien sûr, maintenant. C'est Paul qui écrit, verset 7, Philippiens 3. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, Il vient tout juste de parler à quel point il se pensait important avant. Il était un Hébreu, il était même un pharisien. Il avait un poste élevé, il avait un poste important. Il dit tout ça, ça n'a pas d'importance maintenant que je connais Dieu. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue. Il n'y a rien de comparable au vrai Dieu, à son appel, à ce qui nous attend. Paul dit, je regarde toutes ces choses-là que j'ai accomplies, ce que j'étais au cours de ma vie comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi de Christ. Nous voulons qu'il vive sa vie en nous, la même vie qu'il a vécue sur la terre il y a plus de 1900 ans. Et comme c'est écrit dans Hébreux 13, verset 8, le Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Verset 10, « Ainsi je connaîtrai Christ. » Nous venons ici à la fête pour apprendre à développer encore davantage notre relation avec Dieu, avec le Christ et avec nos frères et sœurs. Nous serons ressuscités. « Ainsi je connaîtrai le Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection. » C'est ce qui compte. Ça doit nous enthousiasmer. Comme Paul dit, il dit, ce que je vis, c'est la résurrection d'entre les morts. Verset 12, Paul ne dit pas, j'ai réussi déjà. Non, il ne dit pas, je suis parfait. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours. Dieu veut que nous mettions tout notre cœur pour progresser. Dieu veut que nous sortions des traditions de ce monde et de ses façons de faire. Les gens courent pour aller au match de soccer, de football, ont une grande faveur pour les spectacles de musique rock et pour leurs idoles. Les gens s'excitent et crient à plein poumon pour des choses insensées. Paul dit, « Je cours pour tâcher de le saisir, le but qui m'a été donné, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. » Il faut arrêter de se sentir malheureux par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, par rapport à nos erreurs. Nous sommes humains, demandons pardon et allons de l'avant. Apprenons de tout ça et marchons avec Dieu plus étroitement pour devenir ses rois et ses enseignants dans le royaume de Dieu. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, fin du verset 13, il faut avoir cette attitude d'aller de l'avant. Nous sommes presque rendus. Il faut accentuer la cadence alors que nous approchons de la fin. Ayez ce zèle nécessaire pour terminer. Je cours, verset 14. Je cours vers le but. Ça veut dire que je fais tous les efforts nécessaires. Se mettre à genoux chaque jour et supplier Dieu. Dieu, pardonne-moi, aide-moi, guide-moi, purifie-moi, transforme-moi, montre-moi mes fautes. Rends-moi semblable à toi. Développe en moi ton caractère. Et comme David disait, David demandait à Dieu, « Montre-moi les fautes que je ne connais pas en moi. » On peut demander à Dieu de faire la même chose. Apprenez à faire ça. Nous demandons à Dieu de faire ça et de nous guider, de nous inspirer, de nous utiliser pour accomplir son œuvre. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il nous faut faire tous les efforts nécessaires pour y arriver, sachant que Dieu va tout faire pour nous amener à terme. Je ne peux rien faire par moi-même, et vous non plus. Vous ne pouvez pas y arriver par votre propre force. C'est le Christ qui va le faire en vous, si vous vous soumettez totalement à lui. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Verset 15. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits ou matures spirituellement, qui allons vers la maturité, ayons cette même pensée. Et si vous êtes dans quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Dieu va vous faire connaître le but de la vie. Certains d'entre vous avaient fait un long voyage pour arriver ici au site de fête. Alors, écoutez, approchez-vous de Dieu au cours de cette fête. Adorez-le. Priez chaque jour sur vos genoux. Ne sortez pas de votre chambre avant de prier Dieu chaque jour. Étudiez la Bible. Prenez des notes. Revoyez vos notes. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Pensez-y de façon spéciale. Ne pensez pas seulement à vous amuser. C'est bien d'avoir une certaine forme de vacances, mais nous ne sommes pas ici pour avoir une vacance par rapport à Dieu. Nous sommes ici pour nous approcher de lui. Il faut nous approcher davantage de notre Créateur, l'adorer, l'honorer, honorer celui qui nous a tout donné et qui nous appelle un avenir merveilleux. Préparons-nous pour avoir la force, avoir la compréhension, avoir la foi et le courage d'être ces gens qui vont se tenir et qui se tiennent à la brèche, qui nous préparons et préparons la voie pour le retour de Christ, pour que nous devenions les rois et les enseignants dans le monde à venir qui sera bientôt établi sur la terre. Bonne soirée, priez Dieu, priez les uns pour les autres, demandez à Dieu de venir de façon spéciale cette fête. Passez une bonne nuit de sommeil.